Le soir au lit, nous avons de grands entretiens, longs et souvent très sérieux. Je cherche dans cette âme d'enfant les traces du passé lointain, bien mort socialement, et toutes mes questions ne restent pas sans réponse. Peut-être les hommes, séduits ou asservis à notre civilisation et à notre conquête, ont-ils oublié? Les dieux d'autrefois se sont gardés un asile dans la mémoire des femmes. Et c'est un émouvant et singulier spectacle que Théora me donne quand je vois peu à peu ces dieux nationaux se réveiller en elle et s'agiter sous les voiles où les missionnaires protestants ont cru les ensevelir. En somme, l'œuvre des catéchistes est très superficielle. Leur enseignement est comme une faible couche de vernis qui s'écaille et cède vite à la moindre teinte à droite. Théora va au temple régulièrement et pratique des lèvres et des doigts la religion officielle. Mais elle sait par cœur les noms de tous les dieux de l'Olympe maori. Elle connaît leur histoire, comment ils ont créé le monde, comment ils aiment à être honorés. Quant aux rigueurs de la morale chrétienne, elle les ignore ou ne s'en soucie et ne songe guère à se repentir de vivre hors des liens du mariage avec un tan. Je ne sais trop comment elle associe dans ses croyances Taoba et Jésus. Je pense qu'elle les vénère tous les deux. Au hasard des circonstances, elle me fait un cours complet de théologie tahitienne. Et moi, je tâche de lui expliquer, selon les connaissances européennes, quelques phénomènes de la nature. Les étoiles l'intéressent beaucoup. Elle me demande comment on nomme en français l'étoile du matin, celle du soir. Elle a peine à comprendre que la Terre tourne autour du Soleil. À son tour, elle me nomme les étoiles dans sa langue et pendant qu'elle me parle, je distingue, à la clarté des astres, qui sont les divinités. Les formes vagues et sacrées des maîtres maoris de la terre et des cieux. Il est probable que les habitants de Tahiti possédèrent, dès la plus haute antiquité, des connaissances assez étendues en astronomie. Les fêtes périodiques des Arioi, sociétés secrètes qui jadis gouvernaient les îles dont je vais avoir l'occasion de parler, était fondée sur les évolutions des astres. Les Maoris semblent même n'avoir pas ignoré la nature de la lumière lunaire. Ils supposaient que la Lune est un globe sensiblement pareil à la Terre, habité comme elle, riche en productions analogues aux nôtres, et ils évaluaient à leur manière la distance de la Terre à la Lune. La semence de l'arbre aura fut apportée de la lune sur la terre par un pigeon blanc. Il lui avait fallu 2 lunes pour atteindre le satellite. Et quand après 2 autres lunes il retomba sur la terre, il était sans plumes. Cet oiseau est, de tous ceux que connaissent les Maoris, celui qui passe pour avoir le vol le plus rapide. Mais voici la nomenclature tahitienne des étoiles. Je complète la leçon de Théora à l'aide de documents trouvés dans un recueil de Mehrenhout, l'ancien consul. Et je dois à l'obligeant de M. Goupil, colon à Tahiti, la lecture de cette édition. Il n'est peut-être pas trop audacieux d'y voir l'ébauche d'un système raisonné d'astronomie plutôt qu'un simple jeu d'imagination. Rua, grande est son origine, dormait avec sa femme la terre ténébreuse. Elle donna naissance à son roi, le sol, puis au crépuscule, puis aux ténèbres. Mais alors Rua répudia cette femme. Rua, grande est son origine, dormait avec la femme dite Grande Réunion. Elle donna naissance au règne des cieux, les étoiles, à Fati, étoile du soir. Le roi des cieux dorés, le seul roi, dormait avec sa femme Tahura. D'elle est née l'autre Tahura, Vénus, étoile du matin. Le roi Tahura, qui donne les lois à la nuit, au jour, aux étoiles, à la lune, au soleil, et sert de guide aux marins. Il fit voile à gauche vers le nord, et là, dormant avec sa femme, il donna naissance à l'étoile rouge, cette étoile rouge qui brille le soir sous les deux faces. L'étoile rouge, ce dieu qui vole dans l'ouest, prépara sa pirogue, pirogue du grand jour qui cingle vers les cieux. Il fit voile au lever du soleil. Réua s'avance dans l'étendue. Il dormit avec sa femme, Uratanaipa, et deux sont nés, les rois jumeaux, en face des Pléiades. Les jumeaux sont assurément les mêmes que nos Castor et Pollux. Leur histoire est curieuse. Ils étaient de Bora Bora. Ayant entendu leurs parents parler de les séparer, ils quittèrent la maison paternelle et allèrent ensemble à Rayatea, puis à Huaïne et à Imeo, et à Tahiti. Leur mère, inquiète, s'était mise à les rechercher aussitôt après leur départ. Mais elle arrivait toujours trop tard dans ces différentes îles. À Tahiti, pourtant, elle parvint à devancer leur fuite, et elle apprit qu'ils se cachaient dans les montagnes où enfin elle les découvrit. Ils se sauvèrent devant elle jusqu'au moment où Laorae est de là. Au moment où tout est déploré et elle croyait les atteindre, ils s'envolèrent dans les cieux où ils figurent encore parmi les constellations. L'étoile rouge est sans doute notre Sagittaire qui brille sous deux faces. Les anciens l'ont quelquefois représenté sous cet aspect. Thura me parle encore d'une étoile nommée Atuaei qui vient dans les nuages moutonnés. C'est notre étoile du berger. Elle ne voulut jamais admettre que les étoiles filantes, fréquentes dans ces climats, ne soient pas Tupapao, des génies malheureux exilés. Lentement, mélancoliquement, ils traversent la grande vallée en quête d'une autre patrie. Mais qui a créé le ciel et la terre? Le Muran Hut et Thura me répondent. Tahaura était son nom. Il se tenait dans le vide. Avant la terre, avant le ciel, avant les hommes. Tahaura appelle. Rien ne lui répond. Et seul existant, il se change en l'univers. Les pivots sont Tahaura. C'est ainsi que lui-même s'est nommé. Les rochers sont Tahaura. Les sables sont Tahaura. Tahaura est la clarté, le germe et la base. L'univers n'est que la coquille de Tahaura. C'est lui qui met tout en mouvement et règle l'harmonie universelle. Vous pivots, vous rochers, vous sables, nous sommes, venez, vous qui devez former la terre. Et il presse entre ses mains les roches et les sables, et les presse longtemps. Mais ces matières ne veulent pas s'unir. Alors, de sa main droite, il lance les sept cieux, pour en faire le fondement du monde. Et la lumière est créée. Tout se voit. L'univers brille jusque dans ses profondeurs et le Dieu reste extasié devant l'immensité. L'univers brille jusque dans ses profondeurs et le Dieu reste extasié devant l'immensité. L'immobilité du néant a cessé. La vie existe et tout se meut. La parole fait son œuvre et les messagers ont accompli leur mission. Les pivots sont fixés. Sables et rochers sont à leur place. Les cieux s'élèvent et tournent. La mer remplit ses abîmes. L'univers est. Cette première version de la Genèse se complique de variantes qui ne sont peut-être que des développements. Taharoa dormait avec la femme qui se nomme déesse du dehors ou de la mer. De son nez, les nuages noirs, les nuages blancs et la pluie. Taharoa dormait avec la femme qui se nomme déesse du dedans ou de la terre. Et de est né le premier germe. Est né ensuite tout ce qui croit à la surface de la terre. Est né ensuite le brouillard des montagnes. Est né ensuite celui qui se nomme le fort. Est né ensuite celle qui se nomme la belle ou l'ornée pour plaire. Autre variante relative à la création de la terre. Maui, qui semble se confondre un peu avec Taora, ainsi que ce Rua qui créa les étoiles, Maui va lancer sa pirogue. Il est assis dans le fond. L'hameçon pend du côté droit, attaché à la ligne par des tresses de cheveux. Et cette ligne qu'il tient dans sa main et cet hameçon, il les laisse descendre dans la profondeur de l'univers pour pêcher le grand poisson, la terre. L'hameçon a mordu. Déjà se montre la base, les axes. Déjà le dieu sent le pouvoir, poids énorme du monde. Tefatu, la terre, émerge de la nuit, pris à l'hameçon, encore suspendu devant l'immensité. Maui a pêché le grand poisson qui nage dans l'espace et qu'il peut à présent diriger selon sa volonté. Il le tient dans sa main. Maui règle en outre le cours du soleil de telle sorte que le jour et la nuit soient d'égale durée. Et je demandais à Théora de me nommer les dieux. Dormait à Aora avec la femme Ina, déesse de l'air. Son nez d'œuf, l'arc-en-ciel et clair de lune, puis les nuages rouges, la pluie rouge. Dormait à Aora avec la femme Ina, déesse du sein de la terre. Et nez d'œuf, Tefatu, le génie qui anime la terre et qui se manifeste par des bruits souterrains. Dormait Taora avec la femme dite au-delà de toute la terre. D'eux sont nés les dieux Teiri et Ramamua, puis Roro qui sortit du ventre de sa mère par le côté. Et de la même femme naquirent encore la colère et la tempête, les vents furieux, et aussi la paix qui les suit. Et la source de ces esprits est dans le lieu d'où sont envoyés les messagers. Mais Théora convient que ces filiations sont contestées. Voici la classification la plus orthodoxe. Les dieux se divisent en Atua et en Romatua. Mais tout cela est bien long et bien ardu à entendre, cessons. Non, point, à la compréhension de l'œuvre, ces documents ramifient. Permettez alors que j'entrecoupe en vous racontant une promenade avec Théora. Dieu sait quel jour de l'année, comme toujours, il faisait beau lorsque nous nous mîmes en route le matin tous deux pour rendre une visite à des amis dont la case se trouvait à une dizaine de kilomètres de la nôtre. Partis à 6 heures, nous fîmes à la fraîche assez prestement, puisque nous étions arrivés à 8 heures et demie environ. Ce fut une surprise et les embrassades terminées, on se mit en quête pour nous fêter d'un petit cochon. Le meurtre fut accompli, on y ajouta deux poules, avec une superbe pieuvre prise le matin même, quelques tareaux et bananes, notre repas s'annonçait copieux et succulent. Je proposai, pour attendre midi, d'aller aux grottes de Maraha, que j'avais laissées souvent sur ma route, sans nulle idée de les visiter. Un jeune garçon, trois jeunes filles, Thera et moi. La bande au complet partit joyeusement pour faire ce petit trajet. La grotte était tout près, cachée presque entièrement par des goyaviers. La grotte n'apparaît sur le bord de la route que comme un pur accident de rocher qui se serait détaché. Mais écartez les branches, laissez-vous glisser d'un mètre de hauteur et vous êtes dans un trou obscur. Ce n'est rien, les yeux ont perdu le souvenir du soleil éblouissant qui règne dehors. Ils voient une grotte dont le fond semble une petite scène de théâtre sans rideaux, au plancher très rouge, distant d'environ 200 mètres. Sur les parois, de chaque côté, d'énormes serpents, du moins ils semblent tels, glissent lentement pour venir boire à la surface de ce lac intérieur. Ce sont des racines qui se font jour dans les fissures du roc. Je propose la baignade, mais sans succès. On me répond que l'eau est très froide. De longs conciliabules à l'écart, puis des rires qui m'intriguent. J'insiste. Enfin, les jeunes filles se décident, quittent leurs légers vêtements, les pareos à la ceinture. Nous voilà tous à l'eau. Ce n'est qu'un cri général. Toé, toé! L'eau éclabousse de partout, puis l'écho répète Toé, toé! Viens-tu avec moi? Dis-je à Thera, et je désigne le fond. Mais tu es fou, là-bas, très loin, et les anguilles, on va jamais là. Et ondulante, gracieuse, sur le bord, elle se jouait de l'eau comme une jeune personne fière de son adresse à la nage. Le cœur serré d'aller tout seul, je me suis mis en route, fier aussi de ma science de natation. Par quel étrange phénomène le fond de la grotte s'éloignait-il toujours de moi à mesure que je me dirigeais vers lui? J'avançais toujours et de chaque côté, les serpents me regardaient avec ironie. Je crus un instant voir flotter une grande tortue. Plus précisément encore, la tête sortit au-dessus de l'eau pour me défier. Sort net que tout cela. Les tortues de mer ne séjournent pas dans l'eau douce. Mais suis-je donc devenu fou, plutôt complètement maori, sujet aux croyances fabuleuses? Je ne sais à ce moment vaincre mes doutes et j'ai presque peur, tout au moins de l'appréhension. Et ces ondulations devant moi, les anguilles. Il faut surmonter cette terreur et je me laisse couler à pic avec un élan pour connaître le fond. Oh, je n'y arrive pas, je remonte. Je n'ai pas même touché le sol du talon pour redevenir fort. Et Théora me crie: Reviens! Je me retourne et je la vois très loin. Mais par quel autre phénomène la distance dans ce sens va-t-elle à l'infini? Thera n'est plus qu'un petit point noir sur le centre lumineux. Que non, j'en aurai le dernier mot, et rageusement je nage environ une demi-heure. Enfin, après 1 heure de route, je touche au but. Un petit plateau très ordinaire, un trou béant qui va où cela? Mystère. Il faut l'avouer, j'ai peur. Je reviens. Terra seul m'attend. Ses compagnes indifférentes sont parties. Terra fait une prière et nous revenons. À l'air doux, au frottement de ma compagne, je reprends chaleur et je vis. Je crois remarquer de l'ironie sur le sourire de Terra quand elle dit « Tu n'as pas eu peur? » Effrontément, je lui répondis « Nous autres Français, nous n'avons jamais peur. » Du reste, pas un geste d'admiration de Terra. Et elle trouva tout naturel que j'aille cueillir, non loin de là, quelques tiarées odorantes, les lui planter dans la brousse de ses cheveux. La route était belle, la mer superbe, Moréa en face grandiose et altière. Il fait bon de vivre et quand on a faim, de dévorer le petit cochon qui nous attendait au logis. Les Atua supérieurs sont tous fils ou petits-fils. Horo, le premier des dieux après son père, et qui eut lui-même deux fils, Tetaimati et Urutefetta, Ra, père de Tetua, Uru, Uru, etc. Chacun de ces dieux a ses attributions particulières. Nous connaissons déjà les œuvres de Tefatu de Maui. Tan a pour bouche le septième ciel, c'est-à-dire que la bouche de ce dieu, qui a donné son nom à l'homme, est l'extrémité du ciel par où la lumière commence à éclairer la terre. Ri sépare les cieux de la terre. Rui gonfla les eaux de l'océan, rompit la masse solide du continent terrestre et le divisa en innombrables parties qui sont les îles actuelles. Fanoura, de qui la tête touchait aux nues et les pieds au fond de la mer, et Fatui, autre géant, descendirent ensemble à Iva, terre inconnue, pour combattre et détruire le cochon monstrueux qui dévorait les hommes. Hiro, dieu des voleurs, faisait avec ses doigts des trous dans les rochers. Il délivra une vierge que des géants retenaient dans un lieu enchanté. Il arracha d'une seule main les arbres qui cachaient au jour le lieu criminel et le charme fut rompu. Les Atua inférieurs s'intéressent à la vie et au travail des hommes. Ce sont les Atua Mao, dieu requin, patron des navigateurs. Peo, dieux et déesses des vallons, patron des chanteurs, des comédiens et des danseurs. Rao, patron des médecins. Noapa, dieu auquel on faisait des offrandes afin d'être protégé par eux contre les maléfices et les enchantements. Tanu, dieu des laboureurs. Taneteua, patron des charpentiers et des constructeurs. Minia et Papea, patron des couvreurs. Matatini, patron des faiseurs de filets. Les Onomatua sont les dieux domestiques, dieux lards. Ils sont de deux espèces, Olomatua proprement dit et génie. Les Olomatua punissent les fauteurs de querelles, maintiennent la paix dans les familles. Ce sont les Varuatata, âmes des hommes et des femmes morts dans chaque famille. Les Eriorio, âmes des enfants morts en bas âge de mort naturelle, les Puara, âmes des enfants qu'on tuait à leur naissance et qu'on supposait revenir dans le corps de sauterelles. Les génies sont des divinités, en quelque sorte supposées ou sciemment imaginées par l'homme. Il choisit tel être ou tel objet qui s'offre à sa vue, sans choix ou du moins sans apparent motif de choix, et à cet être ou à cet objet attribue le sens divin. Le requin, par exemple, deviendra Dieu pour le Maori qui lui confiera ce sens symbolique et qui, dès lors, le consultera dans toutes les circonstances importantes. Les chants historiques et les légendes abondent en fables où l'on voit les dieux se transformer en animaux. Il est très probable que les Maoris ont connu la métempsycose indienne. Après les Atua, les Oromatua viennent au dernier rang de la hiérarchie céleste, les Tihi. Ces fils de Taroa et de Hina, la lune, sont très nombreux. Esprits inférieurs aux dieux, étrangers aux hommes, ils sont dans la cosmogonie maori, intermédiaires entre les êtres organiques et les êtres inorganiques, défendant les droits de ceux-ci et leur pouvoir et leurs prérogatives contre toute usurpation. Voici leur origine. Dormait Ahura avec Ina et deux Nakiti. Dormait Tihi avec la femme Ani, Désir, et d'eux sont nés Désir de la nuit, messager des ténèbres et de la mort, Désir du jour, messager de la lumière et de la vie, Désir des dieux, messager des intérêts célestes, Désir des hommes, messager des intérêts humains. Sont nés ensuite Tihi de l'intérieur qui veille aux animaux, aux plantes, et Tihi du dehors qui garde les êtres et les choses de la mer, Tihi des rivages et des terres mouvantes, Tihi des rochers et des terres solides. Sont nés plus tard encore événements de la nuit, événements du jour, aller et revenir, flux et reflux, le donner et le recevoir, le plaisir. Les images des Tihi étaient placées aux extrémités des Marae, temples, et limitaient l'enceinte des terres sacrées. L'invasion européenne et le monothéisme ont détruit ces vestiges d'une civilisation qui eut sa grandeur. Aujourd'hui, ils ont perdu à notre contact le sens naturel, et dont ils furent pourtant si richement doués, de l'accord nécessaire des créations humaines avec la vie animale et végétale. Ce sont maintenant qu'ils ont étudié à notre école. Des sauvages, beaux eux-mêmes, comme des chefs-d'œuvre d'art, mais au moral, comme au physique, stérile. La Lune tient une place importante dans les spéculations métaphysiques des Maoris. Autrefois, il y avait de grandes fêtes en son honneur, et elle est souvent invoquée dans les récits traditionnels des Arioi. Mais il serait difficile de décider si le rôle qu'on attribuait à Ina dans l'harmonie du monde était positif ou négatif. Le lecteur se souvient sans doute du dialogue d'Ina et de Tefatu que nous avons rapporté plus haut. De pareils textes offrent une belle matière aux exégètes qui voudront réunir et commenter la Bible océanienne. Ils y trouveront les éléments d'une religion fondée sur l'adoration des forces de la nature, très commun à toutes les religions primitives. Tous les dieux maoris sont en effet les personnifications des divers éléments. Mais ils semblent se particulariser en deux points que je me contente d'indiquer. Aux savants appartient le soin de vérifier l'hypothèse. C'est d'abord la netteté qui désigne les deux principes uniques et universels de la vie, pour ensuite les résoudre dans une suprême unité. L'un, âme et intelligence, Tahora est mâle. L'autre, purement matériel et constituant en quelque sorte le corps du même Dieu, est femelle. C'est Ina. Ina n'est pas seulement le nom de la lune. Il y a Ina de l'air, Ina de la mer, Ina de l'intérieur. Mais ce nom n'appartient qu'aux éléments de l'air et de l'eau, de la terre et de la lune. Le soleil et le ciel, la lumière et son empire, sont Tahora. Et malgré cette netteté de la distinction entre la matière et l'esprit, il semble bien qu'on puisse apercevoir l'unité de substance dans cette proposition fondamental de la genèse maori, l'univers, grand et sacré, n'est que la coquille de Tahora. Cette naïve adoration de la nature se singularise donc par un pressentiment philosophique assez rare chez les primitifs. Dans les unions successives de Taharoa avec les diverses représentations d'Ina, nous reconnaissons bien l'action perpétuelle et variée du soleil sur les éléments, et dans les fruits de ces unions, la modification que la lumière et la chaleur ne cessent de faire subir à ces mêmes éléments. On retrouve, sous des symboles multiformes, la même conception à des latitudes très différentes. Mais la cause génératrice, la matière féconde et le fruit, la cause motrice, l'objet mu et le mouvement lui-même, l'esprit, la matière et la vie ne font qu'un. Voilà le trait spécial et qui, je crois, mérite l'attention des penseurs. Second point intéressant. Les Maoris voyaient dans la lune le terme des êtres périssables, ou plutôt le symbole du mouvement qui, sans être la vie elle-même, en est le signe et le reproduit à l'infini. Quelque chose d'essentiellement féminin, tandis que dans la terre et dans l'homme, il semblait, car il est difficile d'oser ici rien affirmer, voir un point acquis dans l'évolution de la vie et qu'elle doit dépasser. En écrivant ce mot « évolution », j'y songe, et si bizarre qu'il soit d'attribuer la grande théorie occidentale aux adorateurs de Tahora, je ne puis m'empêcher d'en discerner la trace dans ces mots. La terre finira, l'homme mourra, la lune ne finira point, l'homme doit mourir. En dépit des phases de la lune, et peut-être à cause de leur succession, où ils voyaient un principe de perpétuel mouvement, ils avaient mis l'astre lunaire au nombre des choses éternelles. Elle ne s'éteignait que pour se rallumer, elle ne mourait que pour renaître. Et il en serait ainsi perpétuellement, selon les lois qui gouvernent la matière, en qui tout se transforme et rien ne périt. Ina représente donc par excellence la matière, et la doctrine maori affirme que la matière est éternelle. Le soleil aussi, Tahora, l'esprit, durera toujours, toujours sollicitera la matière en mouvement et, s'unissant avec elle, engendrera toujours à nouveau la vie. Mais l'homme et son habitation terrestre, qui sont des résultats de l'union féconde de Taharoa avec Ina, la terre et l'homme, qui ne constituent qu'un épisode dans le poème universel de la vie, la terre finira et l'homme mourra pour ne pas renaître. Il est difficile, en laissant la pensée poursuivre sa course avec ces mots « la lune ne finira point », et en se souvenant que la lune symbolise la matière toujours fécondable par les rayons de l'esprit lumineux, de ne pas conclure qu'à la terre disparue, à l'homme mort pour jamais, succédant dans un nouvel habitat, un être nouveau. Rien ne nous interdit de supposer que cet être nouveau sera supérieur à celui qu'il détrône. N'est-ce pas une des formes de la théorie de l'évolution? À d'autres points de vue, moral et historique, le dialogue d'Ina et de Tafatu serait susceptible de toutes différentes interprétations. Le conseil de la lune femme serait le conseil trompeur de la faiblesse féminine qui ne sait pas que seule la mort garde les secrets de la vie. La réponse de Tafatu serait une prophétie nationale. Un grand esprit des anciens jours avait analysé la vitalité de sa race, pressenti dans son sang les germes de la mort, sans possible renaissance, sans plausible salut. Et il disait « Tahiti mourra, elle mourra pour ne pas renaître. » Unité de substance, théorie de l'évolution, qui se fût attendu à constater dans la pensée de ces ci-devant cannibales les témoignages d'une si haute culture. J'ai pourtant conscience de ne rien ajouter à la vérité. La bonne foi de Behrenwout ne saurait être contestée. Il est vrai que Théura ne se doutait guère de toutes ces spéculations abstruses et qu'elle s'obstinait à voir dans les étoiles filantes des génies en détresse, des tupapos errants. Inconsciemment, et dans le même esprit que ses ancêtres, comme ceux-ci pensaient que le ciel est Tahara lui-même, et que les Atua, nés de Tahara, sont aussi des éléments célestes, elle attribuait aux étoiles la sensibilité humaine. Je ne sais jusqu'à quel point la science la plus positive aurait à en souffrir de ces imaginations poétiques. Je ne sais jusqu'à quel point la science la plus élevée les refroidirait. Théura parlait mystérieusement d'une secte, ou plutôt d'une société secrète, à la fois religieuse et politique, et dont l'influence fut capitale dans les îles aux temps anciens de la grandeur féodale, la société des Ariwa. À travers les discours un peu confus de l'enfant, mais empreint d'un sentiment intense de terreur et de vénération, je démêlais le souvenir d'une institution grande, singulière, redoutable, que l'Antiquité avait revêtue d'un caractère sacré. Je devinais une tragique histoire pleine de crimes augustes, la vertu cachée d'un mythe difficile à interpréter, d'un secret bien gardé. Que l'origine de la société s'enveloppa de mystère, j'en étais sûr à l'avance. Mais je voulais connaître la légende de cette origine, le thème sur lequel les siècles avaient varié leurs rêveries. Peut-être allais-je y trouver un des plus importantes richesses spirituelles que j'étais venu chercher à Tahiti. Quand Théura m'eut dit à ce sujet ce qu'elle savait, je m'informai de toutes parts et voici le récit que je parvins à reconstituer. Trame fabuleuse, sous laquelle la vérité historique ne se montre qu'à demi. Hora, fils de Taharoa et après son père le plus grand des dieux, résolut un jour de se choisir une compagne parmi les mortels. Il la voulait vierge et belle, ayant le dessein de fonder avec elle, dans la foule des hommes, une race supérieure à toute et privilégié. Il traversa donc les sept cieux et descendit sur le Paya, haute montagne de l'île de Bora Bora, où habitaient ses sœurs, les déesses Teuri et Auraoa. Tous trois revêtirent la forme humaine, Oro en jeune guerrier et ses sœurs en jeune fille, décidèrent de visiter les îles pour tâcher d'y découvrir la créature digne du baiser divin. Oro saisit l'arc-en-ciel, en posa sur le sommet du païen une extrémité et l'autre sur la terre. Ainsi, ses sœurs et le dieu traversaient les vallées et les flots. Facieuses et charmants dans les différentes îles où on les accueillait, les trois voyageurs donnaient des fêtes splendides auxquelles accouraient toutes les femmes et Oro les considérait. Mais son cœur s'emplissait de tristesse, car s'il se faisait aimer, il n'aimait pas. Aucune des filles de l'homme ne retenait longtemps le regard du jeune guerrier. Et après bien des jours consumés en vains efforts, il se disposait à retourner aux cieux quand il vit à Waitapé, dans l'île de Bora Bora, une jeune fille étrangement belle qui se baignait au petit lac nommé Abaïaïa. Elle était de haute stature et le feu du soleil brillait dans l'or de sa chair, tandis que tous les mystères de l'amour sommeillaient dans la nuit de ses cheveux. Oro, charmé, pria ses sœurs d'aller parler pour lui à la jeune fille pendant qu'il se retirerait pour attendre le résultat de leur ambassade sur le sommet du Païa. Les déesses, en approchant de la jeune fille, la saluèrent, louèrent sa beauté et lui dirent qu'elle venait d'Ano, au district de Bora Bora. Notre frère, ajoutèrent-elles, te fait demander si tu consens à devenir sa femme. Verumati, ainsi se nommait la jeune fille, examina les étrangères attentivement et leur dit « Vous n'êtes point d'Anno, mais n'importe, si votre frère est un chef, s'il est jeune et s'il est beau, il peut venir. Verumati sera sa femme. » Turi et Aoaoa remontèrent sans tarder au Païa pour apprendre à leur frère qu'il était attendu. Aussitôt, Oro, replaçant l'arc-en-ciel comme la première fois, redescendit du Vaitape. Verumati avait préparé pour les recevoir une table chargée de fruits et un lit formé des nattes les plus fines et des étoffes les plus riches. Et sous les tamaris et les pandanus au bord de la mer, gracieux et forts tous deux divins, ils s'aimaient. Chaque matin, le dieu retournait au sommet du Païa. Chaque soir, il en redescendait pour aller dormir chez Verumati. Nulle autre créature humaine ne devait désormais le voir sous les apparences mortelles. Et toujours, entre le Païa et Vaitape, l'arc-en-ciel lui servait de passage. Or, bien des lunes avaient lui et s'étaient éteintes depuis que, dans les cieux désolés, on ignorait la retraite d'Oro. Deux autres fils de Tahora, Orotefa et Urutefa, prenant à leur tour la forme humaine, partirent à la recherche de leurs frères. Longtemps, ils explorèrent sans résultat les différentes îles. Enfin, dans Bora Bora, ils aperçurent le jeune dieu, assis avec Vairomati à l'ombre du mango sacré. Ils furent tellement émerveillés de la beauté de la jeune femme qu'ils n'osèrent l'aborder sans lui offrir quelques présents. Orotefa se métamorphosa en cantruit et Urutefa en plume rouge. Puis, revenant aussitôt eux-mêmes, bien que la truie et les plumes persistassent, ils s'approchèrent des deux amants, ses présents dans les mains. Oro et Vairadati reçurent joyeusement les deux augustes voyageurs. La nuit même, la truie mit bas 7 petits, desquels on réserva le premier pour une destination ultérieure. Le second fut sacrifié aux dieux, le troisième consacré à l'hospitalité et offert aux étrangers, le quatrième prit le nom de cochon de l'hécatombe en l'honneur de l'amour, le cinquième et le sixième durent être gardés pour multiplier l'espèce jusqu'à la première portée. Enfin, on rôtit tout entier sur des cailloux chauds le septième à la mode maori, et on le mangea. Les frères d'Oro retournèrent alors dans les cieux. Quelques semaines ensuite, Vairumati avertit Oro qu'elle était enceinte. Oro prit aussitôt le premier des 7 cochons, celui qu'on avait tout d'abord mis à part, et se rendit au Marae, temple du dieu Vapoa. Là, il trouva un homme nommé Maï à qui il remit le cochon en disant « Momaitai antai naipoa, prenez et gardez bien ce cochon. » Et le dieu ajouta avec solennité « C'est le cochon sacré. Dans son sang sera teinte la ceinture des hommes qui viendront de moi. car en ce moment je suis père. Ces hommes sont les Arriois. Pour moi, je ne puis rester ici davantage, mais vous, je vous nomme Arriois. » Mahi alla voir le chef des Rayataya et lui conta l'aventure, et ne pouvant garder le dépôt sacré sans être l'ami du chef, il lui dit « Mon nom sera le vôtre et votre don sera le mien. » Le chef consentit et ils prirent en commun le nom de Talamanini. Cependant, Oro, étant revenu auprès de Vairomati, lui déclara qu'elle accoucherait d'un fils, qu'elle nommerait Oatapu le Rey, l'ami sacré des dieux, mais que pour lui, les temps étaient accomplis et qu'il devait la quitter. Se changeant alors en une immense colonne de feu, il s'éleva dans l'air majestueusement jusqu'au-dessus de Pirirere, qui est la plus haute montagne de Bora Bora. Là, son épouse éplorait et le peuple saisit d'étonnement, le perdirent de vue. Boatapu Terai fut un grand chef et fit beaucoup de bien aux hommes. À sa mort, il fut au ciel où Vairomati elle-même prit rang parmi les déesses. Oro pourrait bien être quelque brahmine égaré qui apporta dans les îles de la société à quelle époque la doctrine de Brahma. J'ai déjà indiqué dans la religion océanienne des traces de la métempsychose indienne, et il est très probable qu'à la clarté de cette doctrine philosophique, le génie maori s'éveilla. Les esprits capables de comprendre se reconnurent entre eux et s'associèrent pour pratiquer les rites ordonnés, à l'écart naturellement du vulgaire. Plus éclairés que les autres hommes de leur race, d'inspiration plus haute, ils prirent bientôt en main les gouvernements religieux et politiques des îles, s'arrogèrent d'importantes prérogatives et fondèrent une féodalité très forte qui fut, dans l'histoire de l'archipel, la période la plus glorieuse. Bien qu'il n'ait pas connu l'écriture, les Arriois étaient vraiment savants. Ils passaient des nuits entières à réciter mot à mot, scrupuleusement, d'antiques traditions dont le texte ne pouvait être fixé par l'écriture et traduit jusqu'au prix d'un travail assidu de plusieurs années. Ces paroles des dieux, ils ne pouvaient ajouter que des commentaires en donnant aux Arriois la certitude d'un centre et l'habitude de la méditation, les décoraient eux-mêmes d'une grandeur plus qu'humaine, dont le prestige courbait toutes les têtes autour d'eux. Je ne sache rien dans l'histoire européenne de plus majestueusement redoutable que cette compagnie militaire religieuse de laquelle toute puissance émanait au nom des dieux, dans l'intérêt de l'État, décrétait la vie et la mort. Les Arriois enseignaient que les sacrifices humains sont agréables aux dieux et sacrifiaient dans le marae tous leurs enfants, sauf le premier-né. C'est là ce que symbolisent les sept cochons de la légende, qui sont tous mis à mort, sauf celui qu'on garda pour perpétuer la race. Cette obligation barbare à laquelle tant d'autres peuplades primitives se sont soumises devait avoir une cause profonde, sociale et d'intérêt général. Chez des races très prolifiques, comme fut autrefois la race maori, le développement illimité de la population constituait un danger suprême. Sans doute, la vie dans les îles était facile, il ne fallait pas à chacun beaucoup d'industrie pour y trouver le vivre le couvert. Mais le territoire, naturellement restreint, et qu'environnait la mer immense, la mer infranchissable, se fut bientôt dérobé sous les pieds d'un peuple sans cesse multiplié. La mer n'eut pas donné assez de poissons, la forêt assez de fruits. L'anthropophagie n'a peut-être jamais eu d'autre cause que les famines amenées par les excès de population. Et j'ose dire que, sous des formes diverses, on n'a jamais donné au problème de Malthus d'autre solution que l'anthropophagie. Littéralement ou symboliquement, toujours les hommes, trop pressés sur un point quelconque de la terre, se sont dévorés entre eux. L'émigration, quand elle n'est pas elle-même un des innombrables masques de la mort, ajoute la sourde la solution du problème en déplaçant les facteurs. Les Maoris, qui ne pouvaient pas recourir à ce parti dilatoire, adoptèrent donc un système radical. Pour s'épargner le meurtre de l'homme, ils se résignèrent au meurtre de l'enfant. Peut-être, probablement même, avaient-ils déjà éprouvé l'horreur de l'anthropophagie, et sans doute il fallut aux Arriois une extraordinaire énergie pour changer sur ce point les mœurs nationales. Ils y parvinrent qu'en s'imposant au peuple à la faveur de l'autorité religieuse et de traditions très anciennes dont ils étaient les dépositaires vénérés. L'infanticide fut longtemps pour la race un moyen de sélection. La force physique et morale que donnait au fils de la jeunesse, au premier-né, ce terrible droit d'aînesse, qui était le droit même à la vie, entretenait dans le peuple les vertus de la force et de la fierté. Le spectacle constant, la fréquentation assidue de la mort, n'était pas non plus sans enseignement, sans utilité. Les guerriers y apprenaient à ne point le redouter, et la nation tout entière y trouvait le bénéfice d'une intense émotion qui la défendait contre l'engourdissement tropical, qui la suscitait de sa sieste perpétuelle. Le fait historique est que la race maori perdit sa fécondité en renonçant à ses tragiques coutumes. Et si ceci ne fut pas la cause de cela, du moins, la coïncidence est inquiétante. Dans la société des Arriois, la prostitution était une institution sacrée. Nous avons changé cela. Elle n'est plus sacrée, elle n'est plus obligatoire. Elle est tout simplement sans caractère, qui l'excuse ou l'ennoblisse. L'emploi ecclésiastique se transmettait des pères aux enfants, et les enfants s'y exerçaient tout petits. La société était divisée à l'origine en 12 loges, qui avaient pour grand maître les 12 premiers Arriois. Puis venaient des grades inférieurs et enfin des apprentis Arriois. Les divers dignitaires se désignaient par des tatouages particuliers aux bras, aux côtés du corps, aux épaules, aux jambes, aux chevilles. Puisque j'ai été conduit à parler de la grandeur féodale de Tahiti à l'époque reculée où les Arriois les gouvernaient, je veux ajouter ici quelques renseignements sur les cérémonies qui accompagnaient la nomination d'un roi. Tout ceci est du lointain. Autrefois, Mataimua, le nouveau chef sortait de son palais, couvert de vêtements somptueux, entouré de tous les dignitaires de l'île et précédé des principaux Arriois qui portaient dans leurs cheveux les plumes les plus rares. Il se rendait avec son cortège au marae. En l'apercevant, les prêtres qui l'attendaient sur le seuil proclamaient un grand bruit de trompettes, coquillages et de tambours que la cérémonie commençait. Puis, précédant le roi et sa suite dans le temple, il plaçait une victime humaine morte devant l'image du dieu. Le roi et les prêtres récitaient et chantaient ensemble des prières. Après quoi, le prêtre arrachait à la victime les deux yeux. Il déposait l'œil droit devant l'image du dieu et offrait l'œil gauche au roi, qui ouvrait la bouche comme pour l'avaler. Mais le prêtre le retirait aussitôt pour le joindre au reste du corps. On plaçait ensuite la statue du dieu sur un brancard sculpté que les prêtres portaient devant, et le nouveau roi, assis sur les épaules de quelques chefs, suivait processionnellement l'idole jusqu'au rivage, accompagné des arriois comme au départ. La multitude du peuple marchait derrière. Tout le long du chemin, les prêtres ne cessaient de sonner de la trompette et de battre du tambour en dansant. Au rivage, on trouvait la pirogue sacrée, ornée pour cette solennité de branches vertes et de fleurs. Après y avoir introduit l'idole, on ôtait ses vêtements au roi que le grand prêtre conduisait nu dans la mer. Le peuple croyait que les Atuamao, les dieux requins, venaient caresser et laver le roi dans les flots. Quelques instants après, le roi, consacré par ce baiser de la mer, montait dans la pirogue sacrée, où le grand prêtre lui saignait autour des reins le Mahoura et autour de la tête la Taumata, bandeau significatif de la souveraineté. Alors, debout sur l'avant de la pirogue sacrée, le roi se montrait au peuple qui, à cette vue, rompait son long silence et faisait retentir de toutes parts le cri d'usage « Mai Mari, vive le roi !» Quand le tumulte de ce premier mouvement d'allégresse était apaisé, on plaçait le roi sur le lit sacré où avait été apportée du Marae l'image du dieu et on reprenait le chemin du Marae à peu près dans le même ordre processionnel qu'on avait suivi pour en venir. Les prêtres portaient le dieu, les chefs portaient le roi, les prêtres ouvraient la marche avec leur musique et leur danse, et le peuple suivait. Mais maintenant, s'abandonnant à sa joie, il ne cessait de crier « Maïvari, Maïvari, vive le roi !» L'idole était solennellement rétablie sur l'autel. La fête religieuse se terminait là. La fête populaire allait commencer. Ce qui se passait alors est difficile à décrire. Mais je soupçonne que sur ce point, comme sur tant d'autres, les missionnaires, dans un but qu'on devine, ont légèrement calomnié les ancêtres de leurs ouailles. Le roi, couché sur des nattes, recevait le dernier hommage du peuple. Plusieurs hommes et plusieurs femmes, entièrement nus, entouraient le roi en dansant des danses lascives et s'efforçaient de le toucher de diverses parties de leur corps, si bien qu'il avait peine à se préserver des plus obscènes souillures. Voilà sans doute des scènes bien scandaleuses. Mais me sera-t-il permis de dire qu'elle n'était pas sans beauté? Comme il avait communié avec le ciel, avec Talaora, au Marae, avec Ina du dehors, dans la mer, le roi communiait enfin avec son peuple, dans ce dernier hommage. La cérémonie était certes brutale et barbare, et je conviens qu'elle avait son côté répugnant. Mais jusque dans cette brutalité, je perçois de la grandeur. C'est tout un peuple qui exprime son amour pour un homme, et cet homme est le roi. Demain, il sera le maître, et il disposera, selon son gré, des destinées qui se sont assujetties à la sienne. Le peuple n'a qu'une heure, de liberté qui pousse vite jusqu'aux dernières frénésies d'une licence épileptique. Quoi, là, le choquant, ce sont des sauvages, livrés à leur sauvagerie, avec l'assentiment des dieux. Mais les sons de la trompette et du tambour sacré retentissent tout à coup. Et c'est la fin de l'hommage et de la fête, c'est le signal de la retraite. Les plus forcenés obéissent, tout s'apaise, et c'est dans un respectueux silence que le roi se lève pour retourner à son palais, accompagné de sa suite.